Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, pile, bienvenue à tous, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Va-t-il falloir reconfiner la France à cause de l'épidémie de Covid qui repart? On n'en est pas là, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir se remobiliser sur les gestes barrières. Reportage dès le début d'Europe Midi, dans un centre commercial, et puis on sera en direct avec un infectiologue, le docteur Pittet. Des informations Europe 1 exclusives sur la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle qui semble se préciser. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, est avec nous en studio. Une méthode nouvelle pour tenter de calmer les individus violents lors des mariages. Vous savez, ces mariages durant lesquels des individus sont agressifs, bloquent la route ou insultent les élus. La mairie de Poissy va mettre en place un système de caution. Le maire de Poissy, Karl Olive, est en direct dans Europe Midi. Une vente historique d'œuvres d'art chez Sotheby's à New York. Giacometti, Picasso, Warhol et j'en oublie. Que de la belle peinture, que de la belle sculpture. Marie Jiquel va tout nous dire. Et puis le temps, évidemment, la tendance. Anissa Haddadi avec une météo agitée dans le sud. Hein.
Oui, nous avons le retour de cette fameuse dépression Blas qui nous a déjà beaucoup touché la semaine dernière. Alors au programme aujourd'hui, des pluies fortes et orageuses en Corse, du vent violent sur la Côte d'Azur et de la neige en montagne. Partout ailleurs, c'est gris toute la journée.
Merci Anissa, météo complète à la fin d'Europe Midi.
Europe 1.
A priori, la méthode autrichienne ne sera pas importée en France. Ce matin, le patron des députés La République En Marche a dit que la majorité présidentielle ne souhaitait pas reconfiner les non-vaccinés, comme ce qui se fait en Autriche, vous le savez. Avant d'être en direct avec l'infectiologue Didier Pittet, reportage dans un centre commercial de la capitale pour savoir si c'est la fin ou pas du laisser-aller pour le respect des gestes barrières. Nina Droff, qu'est-ce que vous constatez? Vous êtes à Beaugrenelle, à Paris, c'est un centre commercial le long de la Seine. Est-ce qu'il y a une remobilisation sur les gestes barrières?
Eh bien ici, on voit encore des masques portés sous le nez, des distanciations qui ne sont plus respectées. Dans les allées de ce centre commercial, ces manquements aux gestes barrières sont encore courants, malgré la hausse des contaminations. Liliane, employée du centre commercial, les constate tous les jours.
L'usage du gel hydroalcoolique, on n'en tient plus assez compte. Quand on rentre dans les supermarchés, par exemple, il y en a qui rentrent, ils n'ont même pas leur masque. Même dans les centres commerciaux, ils rentrent sans masque. Et ils vont venir vous dire « Ouais, désolé, on a oublié le masque ».
Et ce relâchement inquiète certains, notamment les personnes les plus fragiles. Nicole a 69 ans, elle a son masque sur le nez, même en extérieur. Et depuis quelques semaines, elle prend davantage de précautions.
Dans les magasins, oui. Enfin, j'essaie d'y aller un peu aux heures creuses pour qu'il y ait moins de monde. Pareil dans les transports, j'essaie de prendre les transports un peu dans la journée pour qu'il y ait moins de... On soit moins compressé.
Des précautions que Nicole compte bien tenir alors que les gens sont de plus en plus nombreux dans les magasins à l'approche des fêtes.
Voilà, reportage Europe 1 de Nina Droff. Bonjour docteur Pittet. Merci
Bonjour.
D'être avec nous. Merci professeur. Vous êtes épidémiologiste, chef du service de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. On en est désormais en France à plus de 10 000 cas de Covid par jour, mais plus de 75% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation en France ?
Écoutez, je pense que par rapport à la couverture vaccinale, la France est parmi les pays qui a le mieux avancé, c'est-à-dire qu'elle a la mieux couverte. Maintenant, évidemment, cette couverture vaccinale est encore insuffisante pour pouvoir finalement arrêter la circulation du virus ou en tout cas la stopper de manière extrêmement significative. Elle la stoppe, mais il est clair que vous avez encore une proportion de la population qui n'a jamais été en contact avec le virus et qui pourrait évidemment malheureusement souffrir en étant infecté ou évidemment le transmettre.
Alors, quelle solution aurait vos faveurs? On ne va pas s'en sortir uniquement en se remobilisant avec les gestes barrières, si?
Alors, écoutez, je pense qu'il faut poursuivre les efforts de vaccination et y compris, évidemment, de la dose de rappel, qui est très importante parce qu'on sait que l'immunité de population baisse suite à la vaccination. On en a des évidences, donc il faut continuer ces efforts-là. Et puis, évidemment, il faut finalement revenir sur ces manquements par rapport aux gestes barrières. Vos reportages le disent très bien. Certains des pays qui souffrent particulièrement aujourd'hui avaient même levé les gestes barrières. Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Autriche, de la Hollande, de toute l'Europe de l'Est qui malheureusement vit cette vague de manière très très importante.
Professeur, est-ce qu'il faut revenir en France aux tests gratuits pour tous ? Désormais, ils sont payants quand on n'est pas vacciné. Est-ce qu'il faut revenir à ces tests gratuits ?
Alors, il y a encore toute une série de la population qui bénéficie de tests gratuits lorsqu'ils sont indiqués par des symptômes. Et c'est ça le plus important, finalement, c'est d'aller au test lorsqu'on a les moindres symptômes, parce que d'avoir la connaissance des chaînes de transmission, c'est vraiment l'essentiel du contrôle. Maintenant, évidemment, lorsque les tests sont gratuits, c'est encore plus facile de promouvoir des tests à large échelle. Alors, dans certains pays, ils ne le sont plus, comme la Suisse, ils ne le sont plus non plus, parce qu'évidemment, ça finit par coûter extrêmement cher. Donc, les tests gratuits de convenience, comme on les appelle, bien évidemment, on comprend que les gouvernements sont un tout petit peu réticents. Il est clair que l'accès complètement et totalement libéralisé au test, aide à la compréhension et au contrôle de la pandémie, c'est certain.
Merci beaucoup, professeur Pittet, épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Des informations exclusives Europe 1 dans Europe Midi sur la campagne d'Éric Zemmour. Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Chef du service politique d'Europe 1. Louis, on va s'arrêter un instant sur le financement de la campagne d'Éric Zemmour. Tout est organisé ?
Tout est organisé au cordeau. L'équipe de campagne d'Éric Zemmour, en fait, a passé l'été à éplucher tous les Macron Leaks. Et en fait, la question du financement de la campagne est apparue comme une vraie question, une question fondamentale. Et donc, le sujet est pris au sérieux depuis le début de la promotion de son livre. Hors de question pour l'entourage d'Éric Zemmour de se faire sermonner dans 8 mois par la Commission nationale des comptes de campagne. Et donc, selon nos informations, depuis le 1er septembre, l'ensemble de sa trésorerie, les recettes de ses déplacements et des ventes de son livre, mais aussi les dépenses, notamment pour sa sécurité et ses voyages. Depuis le 1er septembre donc, tous les flux financiers font partie intégrante de ses dépenses de campagne. Une preuve supplémentaire que depuis la sortie de son livre, Éric Zemmour est bien en campagne. Mais ça veut dire aussi que le journaliste ne touchera pas directement de bénéfices des ventes de son livre.
Et puis Louis, on en sait un petit peu plus sur la date de la candidature.
Oui, alors quand je pose cette question à l'entourage d'Éric Zemmour, eh bien un proche du candidat, du polémiste, pardon, parce qu'il est quasiment candidat, on ne peut pas encore vraiment parler de candidat. Ce proche qui ne prononce jamais le nom d'Éric Zemmour, mais parle de Z, m'a répondu Z comme Zénith. Ça veut dire premier grand meeting le 5 décembre au Zénith de Paris. Ce n'est pas un hasard, ça tombe juste après la désignation du candidat de la droite à la présidentielle. À la tribune, une vingtaine de personnalités de premier plan. Et pour ce qui est des orateurs, rien n'est encore décidé, mais Philippe de Villiers devrait prendre la parole, ou encore des personnalités issues de la gauche chevènementiste et même peut-être des élus Les Républicains. Alors ensuite, toute la question c'est de savoir s'il annonce sa candidature avant ce grand meeting. Et il y a une date qui circule qui est le 2 décembre, qui a un double symbole, le sacre de Napoléon et la victoire d'Austerlitz. Vous l'avez compris, une candidature officialisée qui est nécessaire et qui est même indispensable pour convaincre les maires de donner leur parrainage. Vous savez, un candidat à la présidentielle a besoin de 500 parrainages.
Merci beaucoup Louis Dragnel pour toutes ces informations. 12h38, l'immigration est un thème très important dans la campagne présidentielle et dans la campagne des candidats Les Républicains pour l'investiture pour 2022. Ce matin, Éric Ciotti était l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale et il a expliqué pourquoi il voulait en finir avec l'immigration de masse. Écoutez.
Ces Français de papier qui ont eu des titres de séjour, qui ont eu une nationalité sans qu'on vérifie leur amour de la France. Ces Français qui brandissent un drapeau étranger lorsque la France, l'équipe de France de football, est confrontée à certains pays. Donc, ils préfèrent le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents au pays français. Donc, on paye les erreurs de l'immigration de masse. Donc, pour éviter que ça s'accélère, il faut arrêter l'immigration de masse.
Éric Ciotti, ce matin, dans la matinale Europe 1, on part justement à Bruxelles, crise migratoire aux portes de l'Europe. Bruxelles, où les ministres des Affaires étrangères tentent de tordre le bras, diplomatiquement parlant, bien sûr, d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui tente de faire pression sur l'Europe en convoyant des migrants à sa frontière avec la Pologne. Isabelle Horry, en direct de Bruxelles. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous suivez cette réunion. On se dirige vers de nouvelles sanctions envers Loukachenko, le président biélorusse, mais est-ce que ça va être réellement efficace ?
Écoutez, la simple menace de sanctions agit déjà sur les pays de départ ou de transit des migrants et aussi sur les compagnies aériennes qui les acheminent vers la Biélorussie. Il faut dire que depuis quelques jours, les Européens mettent la pression. Résultat, les Émirats arabes unis viennent d'interdire aux Syriens, Irakiens, Afghans et Yéménites de monter dans un avion de la compagnie biélorusse Belavia à Dubaï. La Turquie refuse aussi de leur vendre des billets. Le Liban serait sur la même ligne. La compagnie syrienne Chamwings assure-t-elle qu'elle ne volera plus vers Minsk, et les Irakiens vont commencer à rapatrier leurs ressortissants depuis la Biélorussie plus tard dans la semaine. Les flux et les vols sont désormais presque stoppés selon Bruxelles. De son côté, le président Loukachenko a aussi fait de grandes déclarations ce matin qui valent ce qu'elles valent. Il assure qu'il travaille à faire rentrer chez eux les migrants qui campent à la frontière. Mais l'homme fort de Minsk met en garde, il veut se défendre contre les sanctions européennes.
Merci beaucoup Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Il est 12h40. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on sera en direct avec le maire de Poissy qui part en guerre contre les mariages qui dégénèrent. A tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est 12h43, vous avez certainement déjà vu ces images de mariage qui dégénèrent avec des voitures de luxe qui bloquent la circulation, des invités agressifs. La mairie de Poissy va faire voter une nouvelle procédure pour calmer les esprits. On est en direct avec le maire d'Hiver Droite de Poissy, Karl Olive. Bonjour Karl Olive.
Bonjour Romain Desarbres.
Et merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous allez mettre en place un système de caution pour ces mariages, expliquez-nous.
On est sur un contrat gagnant-gagnant. J'estime que aujourd'hui, vu ce qui se passe parfois avec des mariages, alors encore une fois, on parle d'une extrême minorité, mais qui pollue le quotidien d'une très grande majorité de nos administrés. Il faut remettre, la balance à l'équilibre. Je m'explique. Moi, je suis un fervent défenseur de la réciprocité entre les droits et les devoirs. À ce titre-là, lorsque des mariages ont lieu dans nos belles salles de mariage, j'estime que la moindre chose, c'est qu'il n'y ait pas d'incivilité à l'intérieur de l'hôtel de ville. On s'est aperçu au cours du dernier mois et demi qu'il y avait 3 mariages qui avaient dégénéré, pas seulement à l'extérieur, mais désormais également à l'intérieur, avec des mariages qui parfois démarrent avec pas moins de 1 heure de retard, des agents de l'état civil qui se font insulter, des élus de la République qui se font insulter, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je suis du principe de protéger les équipes comme un bon sportif qui se respecte. Et à ce titre-là, je n'ai aucun état d'âme à demander, comme on le fait lorsqu'on loue des salles communales, un chèque de caution qui va englober des frais de retard de mariage, des frais de dégradation et des frais de ménage. C'est aussi simple que cela.
C'est aussi simple que cela et ça va coûter 1000 euros. C'est-à-dire que quand on va aller à la mairie de Poissy, on va dire oui, bien sûr, je vais vous marier. En revanche, on prend 1000 euros en caution et on vous les rend si ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, on ne vous les rend pas. Y a un profil commun au mariage avec des invités violents. Il y a un profil type. Comment on en arrive à devenir violent et à insulter les élus, pour un mariage qui devrait être la fête ?
Alors, on est justement dans un jour de bonheur, Romain Desarbres. Il ne s'agit pas que ce jour, comme je dis, de confiance, vienne à devenir un jour de défiance. Moi, je suis, encore une fois, quelqu'un qui donne les règles pour qu'on soit dans ce contrat de confiance. Les règles, quelles sont-elles ? Les règles, c'est d'arriver à l'heure, de faire un mariage qui commence à l'heure, d'être prévenu. On signe une charte de mariage pour les futurs mariés. Et à ce titre-là, je ne peux pas accepter que parfois il y ait des drapeaux, que parfois il y ait des jets de projectiles, qu'il y ait des insultes à l'endroit des agents. Et à ce titre-là, je n'ai aucun état d'âme, encore une fois, à remettre le curseur pour que tout cela fonctionne bien. Et je vais même jusqu'à mettre, alors je le déplore, mais je vais même jusqu'à mettre une présence de la police municipale armée avec des caméras portatives pour qu'encore une fois, on souhaite que ce mariage reste un jour de bonheur et potentiellement pas un jour de, entre guillemets, malheur pour mes agents d'état civil qui parfois arrivent à bout le ventre.
Et on parle d'un mariage, mettre la police municipale avec des caméras, tout ça pour un mariage. Merci beaucoup, Carl Olive. Merci d'avoir été en direct avec nous. Maire de Poissy, en direct dans Europe Midi. 12h47, le procès Fillon en appel à partir d'aujourd'hui. C'est l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Gladys Laffitte, c'est vous qui allez suivre ce procès pour Europe 1. L'ancien Premier ministre avait été condamné à 2 ans de prison ferme en première instance et les magistrats avaient été sévères avec François Fillon.
Ah oui, pour le tribunal, François Fillon a contribué à éroder la confiance des citoyens envers les hommes politiques. Car au total, ce sont plus €1 150 000 qui ont été touchés par le couple, alors que, je cite, Pénélope Fillon n'a jamais effectué de réelles prestations de travail, en tout cas rien qui n'aurait pu justifier la rémunération perçue. Pour le tribunal, François Fillon avait sciemment élaboré et mis en place ce système pour détourner cet argent à son profit, sans jamais se remettre en question lors des débats. Alors pour se défendre, l'ex-premier ministre avait torpillé l'enquête menée à charge, selon lui, en pleine campagne présidentielle. Après le procès, la chef du parquet national financier avait avoué avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie, le parquet général. Parquet général qui aura la charge cette fois-ci de porter l'accusation pour ce nouveau procès. L'avocat de François Fillon avait déjà prévenu très vite. Il aura beaucoup d'explications à demander aux magistrats.
Gladys Laffitte, écoutez bien à présent, le chiffre est impressionnant. Entre 7 et 10 000 adolescents se prostituent en France, essentiellement des filles, mais également des garçons. Le gouvernement veut s'y attaquer et lance un plan qu'il veut ambitieux, qui sera dévoilé cet après-midi. Virginie Riva avec nous. Bonjour Virginie.
Bonjour.
C'est un phénomène beaucoup moins visible que la traditionnelle prostitution de rue, la prostitution des ados.
Exactement. Oui, aujourd'hui, toutes les prises de contact peuvent se faire sur les réseaux sociaux et les rencontres ont lieu dans des soirées ou en Airbnb. Toute la difficulté, c'est donc de pouvoir cerner ce phénomène et mieux identifier les proxénètes, des proxénètes qui sont souvent d'ailleurs dans l'entourage proche de la jeune femme, le petit copain par exemple, ce qui fait que la victime ne se reconnaît pas victime, donc pas de plainte, pas de poursuite. Elles ont en plus souvent beaucoup d'argent à la clé, comme le raconte cette jeune fille de 15 ans suivie par l'association Entracte à Lille.
Quand on travaille, c'est 1 200 € par mois. Ouais. Nous on est là, on se fait 200 € par jour, on se fait 10 000 € par mois.
Alors c'est pas de l'argent, je dirais pas c'est de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide. Il n'y a aucun moyen, on m'a proposé de faire sans bâton, rémunéré ou pas. Et à leur clé, j'ai trouvé aucun moyen aussi rapide de faire autant d'argent en si peu de temps.
Voilà, le plan qui va être annoncé cet après-midi sera doté de 14 millions d'euros, piloté par Adrien Taquet, ministre en charge de l'enfance. Il implique les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, le numérique, la ville, le tourisme, l'égalité hommes-femmes. L'idée, c'est pas forcément d'alourdir les peines, hein, qui peuvent déjà aller de 7 à 15 ans pour les clients et pour les proxénètes. L'idée serait plutôt d'avoir des référents dans chaque parquet, nous dit l'entourage d'Adrien Taquet, donner de nouveaux moyens d'enquête. À Paris, par exemple, la police judiciaire a créé depuis septembre un groupe spécialisé sur le sujet au sein de la brigade de protection des mineurs, mais pas forcément généralisable à l'ensemble du territoire.
Merci Virginie Riva, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, nous dit cette jeune fille que vous aviez interrogée, Virginie. Merci beaucoup. Restez bien avec nous, 12h50, dans un instant, une vente aux enchères historique. À tout de suite.
Europe Midi,
Romain Desarbres.
12h53. Si vous êtes salarié, vous l'avez peut-être déjà vécu. Un organisme de formation qui vous appelle sur votre portable pour vous inciter à utiliser l'argent qui se trouve sur votre CPF, votre compte professionnel de formation. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour.
Le gouvernement veut mettre fin à ces situations. Comment compte-t-il s'y prendre ?
Eh bien, il va déposer un amendement au projet de loi de finances pour tout simplement interdire le démarchage téléphonique. C'était une promesse du ministère du Travail qui va s'inspirer de la loi mise en place pour lutter contre les arnaques dans le domaine de la rénovation énergétique. Concrètement, il y aura des amendes pour les démarcheurs et elles seront dissuasives car le phénomène ternit l'image du CPF. Il y a le harcèlement mené par des plateformes de démarchage à l'étranger, sous-traitantes des centres de formation. Et puis, il y a les pratiques commerciales très agressives, voire illégales. Arnaque à la fausse formation, voire piratage pour vider votre compte CPF. Objectif de ces acteurs peu scrupuleux, récupérer une partie du butin des 38 millions de bénéficiaires du CPF qui représente une manne d'environ 53 milliards d'euros.
Merci beaucoup Élise Dangean. Tiens, restez avec nous. On va rêver tous ensemble des noms qui font rêver, des artistes qui font rêver. Warhol, Picasso, Pollock, Giacometti, ils résonneront ce soir à New York en même temps que le marteau lors de la vente aux enchères d'une partie de la collection McLove, la plus chère de l'histoire. Ça sent le record de vente, Marie Jiquel. Hein
Et les enchères chez Sotheby's pourraient bien dépasser le milliard de dollars et donc devancer la collection Rockefeller, vendue plus de 800 millions de dollars en 2018. Mais derrière toutes ces œuvres d'art et ces dollars, Romain, il y a une rupture amoureuse. Le collectionneur et milliardaire Harry Maclow divorce et il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec son ex-femme sur l'estimation de leur collection. En revanche, l'homme d'affaires a eu du flair sur le calendrier du marché, selon le commissaire-priseur Alexandre Milon.
Il va retrouver un certain nombre de portefeuilles, on va dire, frais et dispo, un petit peu avant l'arrivée de quelques grosses ventes qui vont avoir lieu en fin d'année. À l'issue de la période de Covid, très bonne idée. Il a constaté la vitalité du marché de l'art pendant la période de Covid, mais avec quand même une pénurie d'œuvres d'art mise à disposition du marché pendant cette période. Et il a surtout vu que lorsqu'il s'agissait d'œuvres maîtresses, le marché était toujours aussi haut.
Alors Romain, si vous avez entre 60 et 80 millions d'euros sur votre compte, vous pourrez peut-être vous procurer la pépite de cette vente. Une sculpture très rare de Giacometti, un visage bouche ouverte au long nez pointu, aux airs de Pinocchio. Dans le catalogue aussi, quelques Jeff Koons, deux tableaux de Warhol, un consacré à Marilyn Monroe, l'autre à Jackie Kennedy, et enfin une sculpture de Picasso. Il ne manquait que lui.
Effectivement. Oui, je vais faire quelques économies d'ici ce soir. Merci beaucoup, Marie. Ça fait rêver. 12h55, le temps. Le temps avec vous, Anissa Haddadi, pour ce lundi. Des vigilances orange, du vent fort et beaucoup de pluie en Corse.
Oui, le programme est chargé effectivement pour cet après-midi. Le répit aura été de courte durée dans le sud puisque nous avons une nouvelle dépression qui provoque des pluies fortes et orageuses sur le nord-est de la Corse. Jusqu'à 150 mm de pluie sont attendus. Grande prudence donc avec un risque de crue sur le Cap Corse. Entre la Corse et le continent, le vent souffle très fort avec d'ailleurs des vigilances orange vent fort jusqu'à 120 km/h cet après-midi sur les Alpes-Maritimes par exemple. Le sentier du littoral, les parcs et les jardins de Nice sont fermés au public. Attention également au phénomène de vagues submersion. N'allez pas vous balader sur le littoral cet après-midi. Sur les Alpes et les Pyrénées, il neige à partir de 1200 mètres d'altitude. Et puis sur tout le reste du pays, bien on a un temps sec mais très gris, très couvert sur toutes les régions, avec un ressenti plus froid à cause du vent du nord. 8 degrés à Saint-Étienne, 9 à Besançon et Clermont-Ferrand, 10 degrés à Paris, 12 à Bordeaux et Rennes, 13 à Caen et Biarritz, 14 degrés à Brest et Nîmes, 16 à Marseille et 19 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, il est 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est la France Bouge avec Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Très bon après-midi sur Europe 1.